À voix nue. Cette semaine, Michel Simon rencontre Pierre-William Glenn. Ce soir, les premiers films.
Pierre-William Glenn, aujourd'hui, on va parler de vos rencontres avec un certain nombre de grands metteurs en scène avec lesquels vous avez travaillé. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que vous êtes né en 43 et que vos vrais débuts coïncident vraiment avec 68, avec l'année de mai 68, qui correspond à vos engagements politiques, évidemment, et aussi avec vos premiers travaux. En particulier, ce film qui est ressorti, qui s'appelle « Le cousin Jules » de Dominique Benichetti, qui avait été, je crois, commencé par quelqu'un d'autre, comme pour la photo, et vous prenez en charge ce film dont le tournage a été très long, qui est un peu un film semi-documentaire, entre la documentaire et la fiction.
Oui, toute ma vie tourne autour du rapport entre... d'un chef-op, c'est autour du rapport entre la réalité et le documentaire. Alors, Cousin Jules, qui est un film dont le tournage a duré 4 ans, est un film qui reconstitue entièrement, qui fait jouer un couple d'un maréchal Ferrand et de sa femme en Bourgogne. C'est sûrement le dernier maréchal Ferrand de l'époque. Et c'est un film que on va tourner avec... une mise en scène évidente, des travelling très longs, du scope, des travelling que l'on met en place, alors avec des moyens extrêmement limités, mais qui demandent effectivement une implication avec le type. Il n'y a pas d'argent. Ce film est devenu un espèce de incunable, parce que la réalité documentaire, elle est évidente. Le réalisme de ce que l'on tourne est évident, et c'est entièrement éclairé, le niveau lumineux extrêmement élevé. Les rapports entre les intérieurs et les extérieurs sont respectés, c'est-à-dire que c'est des niveaux de lumière intérieure qui sont importants. Une pellicule qui, à l'époque, fait 64 ASA, 32 et 64 après. Donc, un travail de lumière important, un travail de fluidité, encore on reparlait des mouvements importants avec une caméra très lourde, une caméra qui pèse 50-60 kilos, c'est-à-dire un caméflex dans un blimp. Et ça marque, c'était le début, je vous disais, mes débuts, c'est la rencontre avec Rivette, camarade que je fais à l'époque, en 68, et puis un film qu'on commence, que Benichetti commence à ce moment-là, et qu'on termine en 72.
Mais qui est ce Dominique Benichetti ?
Dominique Benichetti, c'était un type qui était, c'était un garçon extrêmement brillant, très agité, et qui était en déco, qui était à l'IDEC en même temps que moi. Donc qui était un classe déco et qui était un type extrêmement inventif, qui savait dessiner, et qui a toujours été sur l'aventure de la technique. Donc qui est parti sur les grands formats, sur le relief après, qui a toujours fait des films, on va dire d'une certaine manière, expérimentaux. Et donc il est mort au moment où je faisais la restauration de ce film, donc ce qui fait que j'ai emmené le film jusqu'au bout, sur une restauration que je trouve extrêmement intéressante, qui me vaut bizarrement des invitations un peu partout dans le monde. J'étais au Japon. Oui, j'ai fait une conférence sur le film, on peut pas comprendre. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Que des Japonais soient passionnés par une image de la France dans les années 60, 70, qui est aussi authentique pour eux. Il y a un vrai voyage, comme nous, on découvre les films de Ozu. Eux, ils découvrent un film sur la France. Et le film, il n'y a quasiment pas de parole. C'est inventif, c'est sur la mort, c'est un couple. Et il y a une ellipse sur la mort de la femme qui est absolument magnifique. C'est juste un plan de pelleté de terre par-dessus un mur. Et à partir de ce moment-là, tout ce qu'on voyait faire entre Jules et sa femme, il le fait tout seul. Et elle n'est plus là. Et on doit comprendre. Là, ça, c'est la force du cinéma. On doit comprendre que le type est tout seul. Et ça se termine sur lui seul, dans une pièce éclairée. Et on s'en va de là. Tout ce qu'ils faisaient, ils mangeaient tous les deux et tout ça. Et il y a tout une répétition de gestes quotidiens avec ce type qui a des mains qui sont des mains quasiment en fer, puisqu'il prend de l'acier brûlant à la main, qui forge à la main, comme on ne le fait plus, et il fait des choses absolument magnifiques qu'on voit en direct. Tout ça a été extrêmement, pour moi, extrêmement formateur. D'abord, les petites équipes avec du matériel lourd, la lumière, reprendre le travail d'un chef-op très très brillant d'ailleurs. Et ça coïncide avec 68. 68, à ce moment-là, nous, on a un groupe qui s'appelle l'Association de Recherche L'Arc, avec Jacques Kébadian, Michel Andrieux, avec qui je vais aller en 68 On était beaucoup plus, enfin, dans mon parti politique, on était en organisation politique, c'était pas un parti, on était beaucoup plus sur la grève générale que sur le mouvement étudiant. Et donc, je suis un des seuls, il y a eu quelques films sur le mouvement ouvrier, mais après, hein, à la Rodia, avec Marais. Et donc, je suis resté à Nantes 3 semaines sur une grève que les gens de parti, les trotskistes et les anarchistes, essayaient de transformer en grève générale centralisée sur un conseil national de grève.
Vous filmez les barricades.
Et avant de partir à Nantes, j'ai filmé tous les premiers affrontements qui ressemblent beaucoup à ce qui se passe là, des étudiants et qui chargent les policiers. C'est la première fois où on voit des policiers qui sont à ce moment-là pas équipés comme les Robocop qu'on a maintenant, avec des képis qui reculent. J'ai filmé là, j'étais en tournage à ce moment-là du film Les Fusils Silencieux, rue juste à côté de la Romerie martiniquaise, et on allait filmer les manifestations en sortant de cet appartement avec Walter Ball, mon cadreur, qui joue le chef opérateur de la nuit américaine, qui joue mon rôle dans la nuit américaine. Et on a filmé, il y a beaucoup d'éléments de 68, il y a une coopérative après, qui sont des choses que j'ai filmées moi. J'ai filmé j'ai pas filmé les barricades du 10 mai, puisque j'étais à Nantes. Mais j'ai filmé du début mai jusqu'au 6.
Donc c'est la rencontre de votre pratique cinématographique et de votre pratique politique.
Pratique politique, oui.
Alors il y a aussi, vous disiez que vous étiez avec Benedetti à l'IDEC, mais vous étiez aussi avec André Téchiné à Turgot, quand vous étiez la préparation
à l'IDEC. Oui, à Voltaire, oui.
Et vous allez être chef ops sur...
Je suis cadreur.
Cadreur sur Paulina Sova.
Oui, son premier film.
Le premier film très, très intéressant, très original.
Il n'en parle pas souvent, mais...
André Téchiné, oui.
Je trouve que c'était très intéressant au départ. Il était dans la même classe que moi à Voltaire. Il a échoué au concours en réalisation et il a fait relativement vite Paulina s'en va pour la société d'Ovidis, pour Pierre Neurice. Et le film était vraiment, j'ai trouvé le film intéressant. Et j'étais cadreur avec des caméras aussi consistantes, quoi. Et grosses caméras.
Alors, en direct. Vous avez évoqué votre rencontre avec Carbis, qu'on oublie peut-être que Carbis était très, très d'extrême gauche.
Oui.
Militant maoïste.
Maoïste, oui.
Quand vous tournez, donc, camarade.
Oui, Jacob. Maoïste, Jacob. J'ai tourné, oui.
Alors, dans des conditions maoïstes?
Non. Oui, pour nous, non. Pour moi, non, parce que mon engagement politique était lié au syndicalisme et que j'étais sur les histoires de minimum, de conventions collectives et tout ça. Donc, sur l'équipe de camarades, c'est peut-être pour ça qu'il ne m'a pas repris après, hein, pour le film d'après, mais c'était plus des gens qui étaient avec moi. Donc, j'ai demandé à ce que tout le monde soit payé. Il y a eu des réunions assez comiques sur la manière dont on allait faire le film et sur la manière dont on allait être payé. Tout le monde allait être payé pareil. Alors, bien sûr, c'était tout le monde être payé comme un assistant, comme un perchman. Et puis moi, je suis arrivé dans une réunion, j'étais dans des réunions politiques, en disant c'est très très bien de dire que tout le monde va être payé de la même manière, très très bien, mais tout le monde va être payé comme chef op. Et là, à ce moment-là, ça s'est retourné, on est revenu au minimum syndicaux, mais c'était marrant parce que tout le monde a été d'accord pour dire on va être payé. Et donc, j'ai pas fait le film d'après. Mais Camarade est une très très une expérience assez marrante. On l'avait tourné là, en milieu ouvrier, une fiction avec Juliette Berthaud. Le côté sympathique de Kermit, c'est qu'il a engagé l'ouvrier qui était là comme responsable de ces salles, les salles des MK2 à la Bibliothèque nationale de France. Là. Il y a eu le côté fidèle à, on va dire, pas un engagement politique, parce que c'était un petit peu de l'air du temps. Le maoïsme, ils ont beaucoup plus mal tourné. On était très très contre. Enfin, moi, très énervant, les gens qui font le même geste, la même chose, en tendant un livre rouge et puis en citant le président Mao, c'était exaspérant. Pour moi, on était très, très opposés à ça. J'étais très opposé à ça et même à ce moment-là, on avait même des affrontements physiques entre les maoïstes et les trotskistes, et c'est resté. Donc, et c'est pas marrant de faire un retour en arrière sur les citations de tous ces gens qui sont passés de plus que de l'autre côté, qui sont devenus de fiefs réactionnaires, c'est assez rigolo. Hein, c'est assez rigolo. Il n'y a pas de fidélité aux origines, là, c'est ces gens-là. Les maoïstes, on a vu toute l'histoire du maoïsme, tous ces gens qui ont fait serment d'allégeance de manière la plus radicale et la plus violente, faut voir comment ils sont passés aussi violemment du côté de, du côté de la
Manche.
Du Manche, oui. C'était oui.
Alors, vous avez mentionné aussi ce film qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, d'un cinéaste qui a disparu. Alors j'ai appris qu'il avait une deuxième vie. Je crois qu'il vit encore. Peter Emmanuel Goldman. Will of Ashes, cet Américain qui allait faire encore un autre film. Il a fait deux films puis s'est arrêté complètement.
Oui.
Comment s'est fait cette rencontre? Parce que ce sont des débuts assez éclectiques entre Téchiné, Karmitz, ce Will of Ashes.
Will of Ashes, Peter Goldman, il est revenu présenter le Will of Ashes qui m'a beaucoup intéressé. C'était assez aussi c'est la rencontre avec le bonhomme qui a fait la chose. J'ai pas d'intermédiaire à ce moment-là. Je considérais comme un type qui peut tourner relativement vite et c'est une très très belle expérience. Goldman, il y avait Pierre Clémenti, la femme de Peter Emmanuel Goldman, qui est revenu présenter ça. Je vous dis, il y a 4 ans, à Saint-André-les-Arts où j'étais, et ça fait beaucoup d'effets. C'est un mélange.
C'était en noir et blanc, un noir et blanc très fort. Non,
oui, j'avais vu Echoes of Silence, que j'avais trouvé formidable, et ça a suffi pour que je dise d'accord pour cette aventure, qui est une très belle aventure. Et c'était, en plus, le travail en noir et blanc, c'est des choses qu'il faut surtout pas oublier, à mon avis. Le noir et blanc, la différence, c'est que tous les grands chefs opérateurs du noir et blanc éclairaient différemment un bleu d'un vert pour avoir des gammes de gris qui différencient ces couleurs qu'on ne distingue pas en noir et blanc à partir de... Ça fait drôle de voir des sources de lumière partout pour éclairer. En fait, ils éclairaient pour essayer d'avoir des camailleux de plages de gris puisqu'il n'y avait pas de couleur. Ils faisaient de la couleur en noir et blanc sur des valeurs différentes. C'était marrant, on arrivait à des noirs et blancs pas antipathiques. J'avais tourné Au Salto, le film de Chalonge, avec d'Europe comme assistant. Et je me suis posé le problème, justement, comment on donne du relief, comment on donne de la profondeur à du noir et blanc. Je me suis posé ces problèmes-là. Il faut tout éclairer. J'aime bien cette... Moi j'ai essayé, je suis arrivé parfois, à mélanger cette idée de opérateur noir et blanc et opérateur couleur qui représente pour moi parfaitement Jerry Fisher. Type qui a été éduqué,
chef opérateur de Lozay,
qui représente et avec lequel j'ai beaucoup appris. Après, j'ai beaucoup appris. Il m'a fait gagner une dizaine d'années. J'aurais trouvé moins facilement que si j'avais pas vu travailler. On parlait de l'ARC, ce groupe de militants, on va dire politiques, qui font du cinéma. Kebadian est devenu un réalisateur absolument passionnant, qui est parti sur le mouvement arménien, sur le génocide, qui a fait des films absolument étonnants, à qui je suis d'ailleurs toujours resté en très bon contact et à qui je souhaite longue vie, parce qu'il n'a pas bougé non plus sur des convictions de générosité et de solidarité. Il était un peu partout en Algérie, il est en tôle, en 68, sur les manifestations ouvrières et tout ça. C'est des gens qui n'ont pas bougé, qui sont intacts, qui n'ont pas été touchés.
Alors vous évoquiez José Giovanni hier, c'est Alain Corneau qui était l'assistant de Giovanni, qui vous présente à Giovanni. Et ce qui est très frappant dans votre parcours, mais c'est pas, vous n'êtes pas le seul, tout être humain vit ça, c'est l'importance des rencontres, c'est-à-dire les hasards, les gens qui vous présentent. Plus tard, c'est Suzanne Schiffman, qui vous aviez connue chez Rivette, qui va vous présenter à Truffaut. Donc, tous ces accidents qui font finalement toute une trajectoire.
Ça pourrait faire un répertoire de films de Lelouch, c'est toute une vie ou hasard et coïncidence, mais c'est vrai que il est essentiel de, et encore une fois, c'est toujours les fondamentaux, c'est ma vie, c'est des rencontres. Ma vie d'opérateur, c'est des rencontres avec des gens, comme j'ai eu la chance de faire très vite des films et de vivre confortablement de mon métier. En fait, le grand privilège que j'ai eu, c'est que les hasards, on les provoque un peu. J'ai jamais démarché de metteur en scène, c'est toujours eux qui m'ont démarché. Et à partir d'un certain moment, ce qui était heureux, c'est que j'ai eu très vite plus de propositions de travail que de films que je pouvais faire dans l'année. Je pouvais pas faire plus de 4 films dans l'année. J'avais fait des fois un peu plus. Et donc, la coïncidence, la rencontre... En fait, je me suis rendu compte aussi, quand on a commencé, ou on a parlé de cet entretien, que j'ai refusé plus de films que j'en ai fait. Là, ça fait quelques années, là où, effectivement, la débilité des scénarios qui me sont... Ça fait 16 films que je refuse. Alors, bien sûr, il faut avoir la possibilité de le faire, mais, en fait, l'essentiel de la liberté, je cite souvent... C'est des choses qui sont... C'est pas prétentieux de ma part, mais je cite souvent Heidegger sur le dévoilement. Heidegger dit l'homme est régi par le destin du dévoilement. Le dévoilement, et c'est ce qui, ça vient de ce qui est libre, ça va vers ce qui est libre et ça conduit vers ce qui est libre. Et l'idée du dévoilement de soi-même. Moi, je fais des films sur l'idée que ça va m'apprendre quelque chose sur moi. C'est-à-dire l'idée de faire un film dans une position d'interprète, ça vous apprend quelque chose sur ce que vous êtes et ce que vous pourriez être et ce que vous voudriez être. Et ça, l'idée du dévoilement, elle est essentielle. Puis le cinéma, ça grossit tout, ça grossit les défauts et les qualités, mais l'idée que dans le cercle magique qu'est un plateau de tournage, les gens se dévoilent, qu'on comprend quelque chose qu'on n'aurait pas compris sans cette magie-là, c'est ce qui a motivé ma vie. C'est ce qui a continué à motiver ma vie. Et d'être exigeant dans les hasards des rencontres, c'est-à-dire, tiens, avec cet homme-là, je vais apprendre quelque chose sur moi, sur lui, bien sûr. Ça a été, on va dire, la chance que j'ai eue assez vite. Il y a une anecdote marrante avec Truffaut aussi, puisqu'on était sur mes années IDEC. Quand j'étais à l'IDEC, je suis parti en 66, donc Truffaut est venu à l'IDEC. Et alors, j'étais un type assez désagréable, mais alors j'ai été odieux. Avec lui, je l'avais insulté en disant que c'était pas la peine. Il était venu présenter La Peau Douce. Et là, j'ai été absolument dément. Enfin, pas dément, parce que j'étais articulé. Mais non, c'était pas la peine d'aller assassiner Claude Autant-Lara, d'aller assassiner Julien Duvivier. Et même, je disais, Jean Delannoy, c'était pas la peine d'aller faire des papiers aussi incendiaires pour faire un film qui est une copie terrible du couple à trois et de l'amant dans le placard, c'est tout juste ça. Et c'est vraiment une espèce d'hostilité arrogante d'étudiant. Ce qui est drôle, c'est que Schiffman m'a présenté à lui 5 ans après pour une belle fille comme moi. Et quand je suis rentré dans son bureau, là, au carrosse, il m'a dit « Ah ben, c'est vous, je me rappelle de vous, vous aviez une chemise rouge, vous m'avez bien traité quand vous étiez à l'IDEC, je me rappelle, sur La Peau Douce, ça vous a pas plu, La Peau Douce, il avait un humour qu'on connaît pas toujours. » Et la grandeur du bonhomme, c'est qu'il m'a engagé, il m'a pris. Donc il m'a pris, c'était pareil sur la rencontre, il dit « vous disiez ce que vous pensez ?» J'ai dit « oui, mais vous n'avez pas toujours dit ce que vous pensiez, puisque là maintenant, je dis « pourquoi vous ressortez pas toutes les horreurs qui vous avez sorties ?» Et il dit « maintenant, je suis un réalisateur installé, ça serait comme si je critiquais des gens, des autres metteurs en scène, alors que maintenant je le suis. » Malin. Mais c'était encore une fois, hasard de la rencontre, improbabilité de la rencontre, et toujours aller vers l'improbable. Et les 3 films que j'ai fait avec lui sont des moments de vraie complicité, de bonheur et tout à fait agréable. Il y a pas de.
Alors justement, on va revenir. Vous en avez parlé hier de Jacques Rivette, puisque l'inséparable ami de Truffaut, c'était Truffette et Rivaud.
Truffette et Rivaud.
Ils étaient inséparables.
Gourou.
Donc cette expérience avec Rivette, donc c'est tout de même le rôle de l'improvisation dans Out One, mais dans tous ses films. C'est-à-dire, Rivette a toujours laissé quasiment l'initiative à ses comédiens. C'est-à-dire que, alors, si ça marche, c'est très bon. Si ça marche pas, c'est pas bien. Mais il n'est pas, si j'ose dire, à la limite, pas responsable.
Si, je pense qu'il est responsable, parce que le génie, il y a une forme de génie d'arriver à écrire à partir du chaos et de l'informel. Moi, je pense que là, je me suis retapé pendant longtemps, la restauration de Antoine, c'est assez génial de faire écrire à des comédiens leur texte sans avoir de rapport avec l'autre avec lequel ils vont jouer, de faire écrire à des comédiens quelque chose qu'il arrive à recoller avec Suzanne Schiffman, qui était une aide appréciable, recoller pour faire un tout. Moi, je trouve l'amour fou absolument étonnant. Comment dirais-je ? Jusqu'à où peut-on aller en tant que comédien quand on joue quelque chose, qu'on invente son rôle? Bon, j'ai des anecdotes épouvantables sur Jean-Pierre Léo, là, qui était à ce moment-là entre Truffaut et Godard, juste après, c'était terrible, là. Dans une scène où il devenait dingue, il devenait fou, il mangeait un ceinturon en cuir, il vomissait, et puis c'était une idée de désespoir sur l'idée qu'il était au bout. Je l'ai rattrapé, il sautait par la fenêtre, on était au 4e. J'avais la caméra à l'épaule, je l'ai rattrapé, Jean-Pierre, et je l'ai ramené dans la maison. Rivette était dehors, derrière la porte. L'ingénieur du son était sur une armoire avec une perche, et moi j'étais avec mon assistant à filmer tout ce que faisait l'improvisation que faisait Léo, qui était fort étonnante, très étonnante. Mais la folie dans laquelle il est rentré, c'était l'idée dans laquelle on peut aller jusqu'au bout. Dans l'amour fou, il se coupe les veines pour de vrai. Et donc il y a tout un rapport entre la fiction et la réalité, et où vous amène la fiction que j'ai appris là aussi. C'est quelque chose que j'ai appris. C'est-à-dire quelqu'un, il dit, bon, d'accord, on simule, puis à partir de quel moment on simule plus? L'histoire de Léo, elle est terrible. Et puis, l'histoire de Calfon, que j'ai connu, etc., qui était acteur aussi dément. C'est-à-dire moi, je trouve les scènes de Calfon dans L'amour fou avec Ubu, là, je trouve ça tout à fait physique, palpable. Il y a une réalité qui passe, qui est la réalité que je demande au ciné. Par contre, l'idée de l'artifice, de l'improvisation, je crois qu'il en fait quelque chose à chaque fois, et toujours. Alors, il y a des films très longs, très ennuyeux. Je pense que 12h40, pour un spectateur, c'est un peu long, c'est un peu ennuyeux. Il y a des gens qui peuvent gueuler. Moi, mon amour du ciné fait que j'ai regardé ça. J'avais été le voir quand il est passé au Havre, parce que c'était pas facile. Et puis après, il y a eu une projection à Chaillot, là où on faut venir avec des casse-croûtes, on passe 2 heures, on arrête, on reprend et ça fait toute la nuit. Et j'ai trouvé ça, c'était plutôt rigolo. Mais il y a quelque chose qui ressemble au théâtre No. C'est l'idée, on rentre au théâtre et puis on ne sait pas quand on va sortir.
Il en a d'ailleurs fait une version courte, puisque
oui, il a fait un court métrage. Il a fait un court métrage de 4h20. Il y avait une vraie intelligence du montage. Il montait très longtemps. Et il a été on ne peut plus emmerdant, parce que c'est du fétichisme, pour passer d'un original 16 à une version, il fallait faire des contre-types. Il ne voulait pas qu'on coupe un photogramme pour faire le contre-type. Il ne voulait pas qu'on coupe le photogramme, c'était un cauchemar, et il fallait bien couper pour coller les trucs, 2 versions. Ça a été difficile. Et j'ai passé beaucoup de temps là sur les idées au labo pour voir comment on allait pouvoir monter 80 à partir de 2h40, autant vous dire. Et là, il était maniaque. Il était maniaque. Alors, pas violent, maniaque.
Alors, je vais vous poser une question aussi sur votre beau-frère, Claude Miller, dont vous avez évoqué l'importance dans votre jeunesse. Il vous a formé, d'une certaine façon, par sa cinéphilie.
Il m'a attiré.
Voilà, c'est que vous avez tourné avec lui. Bon, c'est un des grands cinéastes de sa génération. Oui. Et vous avez tourné avec lui 3 courts-métrages, tous les 3 extrêmement brillants. Juliette dans Paris, La question ordinaire, et Camille ou la comédie catastrophique. D'ailleurs, le premier était réalisé avant 68, en 67. Vous aviez 24 ans. Mmh. Et vous n'avez pas tourné de long-métrage avec lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Écoutez, il s'est passé que j'étais très occupé, que j'ai préparé 2 films. Là, sur le premier film, sur La meilleure façon de marcher, j'étais censé faire le film, mais j'avais déjà fait 2 films avec Truffaut, et les 2 dates de tournage ont coïncidé avec une, on va dire pas une priorité, mais l'idée que j'avais fait des films avec Truffaut, qu'on faisait L'argent de poche en même temps que La meilleure façon de marcher. D'ailleurs, c'était assez marrant, parce que on était à Thiers, ils étaient à Clermont. On a fait un match de foot des 2 équipes, de l'équipe de Nuitaine, de Miller et de moi, avec François Truffaut dans les buts, avec des souliers vernis. C'était tout à fait intéressant. Mais j'ai toujours considéré Claude comme un réalisateur important, qui n'aurait pas, comme tous les grands réalisateurs, qui n'auraient pas pu vivre sans le cinéma, et qui incarne une passion du cinéma du début de la journée jusqu'à la fin. C'est un homme de cinéma, un homme de réflexion sur le cinéma aussi, et c'est un grand classique du cinéma français, mais c'est quelqu'un qui était tout à fait respectable en tant que cinéaste, et ça c'est indéniable, et j'aurais fait avec plaisir. Après, j'ai préparé le film avec Lino Ventura et Michel Serrault, et c'est pareil, c'est retombé, c'est Nuitaine qui a fait les 2 films. J'ai fait une préparation assez longue sur une manière de tourner tout ça avec lui, parce que Miller, jusqu'à 5-6 ans avant qu'il meure, je le voyais toutes les semaines. Je le voyais régulièrement, on voyait des films, trop de films à la télé, pas à mon goût, mais on voyait des films ensemble, on parlait du cinéma, on parlait de ce que je faisais, de ce qu'il allait faire, tout ça. J'ai eu tous ses scénarios, il me donnait ses scénarios, il me donnait ça à lire. Et je crois que j'étais important dans sa tête, parce que quand il a fait justement les films en numérique et que j'ai trouvé ça épouvantable, je lui ai dit, et ma sœur me dit...
Le numérique, pas les films.
Hein?
Le numérique.
Non, le film, j'ai trouvé le film tout à fait détestable, j'aimais pas du tout le film non plus. Mais c'était... Enfin, on en parlera après sur l'évolution numérique, c'est qui... L'évolution technique, il faut la contrôler, puis il faut pas dire que l'on évolue... Techniquement, quand on fait une régression, c'est-à-dire à chaque fois qu'on change de technique, que ce soit les caméras ou que ce soit le matériel électrique, il faut pas dire que c'est mieux parce que c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une régression esthétique et qu'on est passé du cinéma muet au cinéma parlant, il y a une régression esthétique sur la caméra, sur les mouvements de grue. Vous voyez Le Dernier des Hommes, vous voyez les films de Murnau. Et puis, on arrive avec des caméras qui doivent être dans des caissons étanches, qui ne peuvent plus bouger, qui font des plans fixes, qui peuvent plus bouger. Il y a une régression énorme. Quand on passe à la couleur en 34, c'est une régression énorme. Ça fait 5 ASA. La pellicule était relativement sensible en noir et blanc. Donc, l'idée que c'est vachement bien d'avoir... Ça, c'est pas vrai. C'est mieux après. C'est mieux après, quand on a récupéré l'outil, qu'on en a fait quelque chose. Donc, toute cette idée de passage au numérique, pour moi, c'était un cauchemar de 10 ans. Là, maintenant, on arrive à des perspectives intelligentes, mais là, les premiers films là qui sont passés comme des films qui étaient des mauvais films de télé, du point de vue, je veux dire, de la structure de l'image, que je retrouvais plus, où il y a pas de point, où à partir de 3 mètres, on sait pas si c'est un homme ou une femme qui est devant vous, tellement c'est flou. Dire que ça c'est bien et que c'est une volonté, c'était pas vrai. Donc toute la série de films qui ont été faits là pour Arte, qui sont passés au cinéma, j'étais assez contre. Alors indépendamment du film, le film de Claude, on s'est pas fâché là-dessus.
Merci beaucoup, Pierre-William Glenn. Alors, demain, on continuera avec vos rencontres avec de grands cinéastes. Ce sera évidemment François, Bertrand, Joe, Claude et les autres.
Très bien.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Michel Simon avec Pierre-William Glenn. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Jean-André Giannichini, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.